On l'avait mentionné, Luc, on souligne les femmes ce matin, le vendredi, qui descendent toujours tes fameuses 3 étoiles. Et c'est important de souligner leur travail. On le fait de toute façon à chaque semaine, mais là, on a fait un petit spécial aujourd'hui.
Oui, cette semaine, j'ai porté une attention particulière à l'action des femmes parce que je me suis dit, vendredi, Journée internationale de la femme, il faut souligner les femmes qui font le choix du service public, qui s'impliquent, qui le font bien en plus. Et malheureusement, elles sont encore trop peu nombreuses à être impliquées en politique. Et ça démontre qu'on a peut-être, oui, atteint l'égalité de droit, mais dans les faits, on n'est pas encore au niveau de l'égalité. Mais il y en a des femmes qui y sont, qui ont brisé cette espèce de plafond de verre. Et lorsqu'elles y sont, elles servent de modèle, notamment aux jeunes femmes qui souhaiteraient s'impliquer en politique. Alors, c'est pourquoi je pensais que c'était important de souligner leur travail ce matin. Puis tu vas voir, dans les 3 personnes que j'ai choisies, il y a vraiment l'aspect des convictions qui sont très présentes chez elles, mais pour différentes raisons. Alors, on va y aller avec la politique fédérale.
Oui.
Là, je pense que tu n'auras pas de surprise. Parce qu'elle a marqué la semaine politique au Canada, c'est Jane Philpott,
oui.
par sa démission fracassante. Et oui, même hier, tu as vu, j'ai questionné un petit peu ses motivations. Mais je pense que ça démontre quand même, peu importe ses motivations, qu'elle a de fortes convictions. Moi, je te dis, Steve, j'ai rarement vu ça. Quelqu'un qui n'est pas concerné directement par une histoire, parce que bon, c'est pas elle qui a été dégommée, c'est pas sa parole à elle qui était remise en cause, pas sa décision à elle non plus qui était remise en cause, mais qui se sacrifie pour une question avec laquelle elle n'est pas en accord ou qu'elle se sacrifie par amitié pour une collègue. Donc, peu importe.
Il fallait quand même le faire parce
ben
que
oui.
En soi, Mme Philpott venait de recevoir une promotion. En soi, son avenir politique, je pense qu'il était plus simple sans sa démission.
Bien, son avenir tout court. Moi, je dirais son avenir tout court parce que oui, pour elle, il y a des répercussions politiques. Mais même lorsqu'elle retournera, par exemple, dans le secteur privé ou dans une autre vie professionnelle, tu sais, quand tu es employeur, puis tu te dis, tu reçois le CV de Jane Philpott, quand tu as vu ce qu'elle a fait à Justin Trudeau, tu vas y penser 2 fois.
Ben oui.
Alors, ça a des conséquences. Mais pour elle, ses convictions sont tellement fortes, sont tellement présentes qu'elle n'a pas eu de considération pour ça. Visiblement, ce n'est pas une carriériste. Donc, oui, elle est en politique pour les bonnes raisons. Et elle s'est dit, non, moi, mes convictions, c'est ce qui me représente, c'est ce que j'ai de plus précieux. Je prends cette décision-là et puis je vais l'assumer. Alors, chapeau à elle, peu importe quelles sont ses motivations.
Elle a mis tout son poids pour avoir un impact et on sait qu'elle en a eu tout un.
Ah oui, parce qu'on l'a dit cette semaine, ça a fait plus mal à Justin Trudeau que Jody Wilson-Raybould.
J'en suis persuadé.
Parce que là, c'était une histoire personnelle entre lui et son ancienne ministre. Mais
alors que
complètement
finalement, c'est plus généralisé. Finalement, parce que tu dépersonnalises un petit peu le débat. Tu fais, c'est plus large que ça.
Non, effectivement. Puis c'est ça, elle est justement pas concernée directement. Puis elle a dit, non, moi, j'accepte pas ça. M'en vais.
Au provincial?
Au provincial, c'est la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, qui a confirmé cette semaine l'intention de son gouvernement de rétablir le poste de commissaire à la santé et au bien-être qui avait été aboli en 2016 par Gaétan Barrette. Et à mon avis, c'était une erreur. Ce poste-là avait été créé par Philippe Couillard lorsqu'il était ministre de la Santé en 2006. Puis à ce moment-là, M. Couillard voyait ça comme étant un élément important de sa réforme en santé. Le commissaire à la santé et au bien-être, c'est quelqu'un qui aura une fonction très importante de surveiller la performance du système, d'informer la population sur l'état du réseau, de formuler des critiques, puis finalement de faire des recommandations pour améliorer l'accès aux soins. Alors, c'est un petit peu un chien de garde. Puis lorsqu'on sait tout l'argent qu'on investit collectivement dans les soins de santé, qu'on puisse avoir quelqu'un qui mesure si oui, on fait correctement les choses, est-ce qu'il y a des résultats, les choses qui ne vont pas bien, faire des recommandations en conséquence. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Oui, il y a des coûts qui sont rattachés.
Oui, mais
en
même temps, écoute, quand tu regardes l'ensemble d'investissements,
ben,
Luc,
là,
on s'est souvent posé la question, c'est pas, on sait que ça, qu'il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas en santé. On sait qu'il y a des fois, il manque de moyens ou les moyens ne sont pas à bonne place. Mais à chaque fois qu'on injecte de l'argent, c'est difficile de mesurer les résultats. Souvent, on se dit, ça donne-tu vraiment quelque chose? T'sais, à un moment donné, il y a une limite à investir sans savoir l'impact réel de ce que tu fais.
Ben oui, parce que tu gères quand même les fonds publics puis les gens gagnent chèrement leur argent.
C'est
alors...
pas des millions, là, on parle de milliards.
Oui, exact. Puis là, le poste de commissaire, ce que ça va coûter, c'est 3,2 millions. Fait que quand tu mets ça dans l'enveloppe du budget de la santé, qui est 50 % du budget de l'État, écoute, c'est du petit change, là. Puis sais-tu quoi? Moi, je pense que si le commissaire fait son travail de manière diligente, fait des recommandations, ben il va s'autofinancer parce qu'il va permettre à l'État d'économiser pas mal plus que ce qu'il coûte, finalement.
Assurément. Puis c'est le cas, d'ailleurs, dans la plupart des endroits où on installe ce genre de poste-là. même pour les villes où, tu sais, quand la personne en place fait bien son travail, souvent, oui, elle te rapporte plus qu'elle te coûte.
Ben exactement. Fait que c'est un poste qui s'autofinance. Oui. Puis c'est un exercice de transparence, hein, aussi. Puis elle est là, la, je trouve, la conviction de la ministre. Elle dit, ben moi, je vais recréer un poste qui va me surveiller, mm-hmm, en quelque sorte. Alors ben oui, ça, c'est une belle preuve d'humilité. Puis de dire, ben regarde, moi, ma conviction, c'est d'améliorer les soins de santé. Puis j'ai pas peur que quelqu'un me surveille puis qu'il me critique.
Et pas juste ça. C'est désagréable. Tu sais, il n'y a pas un ministre qui aime ça se faire critiquer, se faire remettre, non, en question.
C'est pour ça Gaétan l'avait aboli. Oui, ça cadrait bien avec le personnage. Écoute, mais oui, faut être juste, là, par contre, c'était en 2016. Puis c'est dans le cadre du retour à l'équilibre budgétaire. Mais ceci étant dit, non, on connaît notre Gaétan.
C'est une flèche qui est possiblement honnête. Puis au contraire, moi, je trouve que ça renforce la démocratie.
Ben,
tu sais,
oui,
que tu acceptes de te faire critiquer comme ça, ça montre que ton actif est démocratique. Tu sais, c'est bon.
Exactement.
Scène locale.
Scène locale, Annie Godbout, conseillère municipale, pour sa sortie dans la fin de semaine dernière, suite au dépliant là, qui a été distribué au centre-ville anti-immigration, qui encourageait les citoyens à rejoindre des groupes, je dirais, radicaux, puis incitait aussi à la résistance. Alors, évidemment, c'est un espèce de document qui encourage à l'intolérance, puis je pense qu'il faut toujours faire un contre-message à ça. Elle le fait, elle a dénoncé justement ce dépliant-là. Elle a encouragé les gens aussi à le dénoncer. Et je pense, comme élu, c'était son rôle de le faire parce que comme leader, on a accès aussi à une tribune. Puis lorsqu'il y a des débordements comme ça, ben il faut faire le contrepoids. Il faut rétablir les faits parce, mm-hmm, que lorsqu'on dit que bon l'immigration de masse entraîne des coûts importants, ben l'immigration dans les faits, puis on le voit là, les employeurs, à quel point ils ont besoin de main-d'œuvre. Donc, c'est une source d'enrichissement économique, mais aussi social et culturel. Alors, je pense pour le maintien du vivre ensemble qu'on a à Sherbrooke, il faut prendre la parole. Elle l'a fait. Et encore là, ça démontre une certaine conviction parce qu'on sait que par les temps qui courent, c'est pas nécessairement sexy de prendre position, de défendre l'immigration. On a vu à quel point ça a été un enjeu lors de la dernière campagne électorale provinciale et Annie Godbout le sait, elle a été candidate, mm-hmm, dans cette élection-là. Mais malgré tout, pour elle, je le sais, moi, pour la connaître, que c'est une... Il y a des convictions profondes qui l'animent en matière d'immigration. Elle n'a pas hésité à prendre la parole pour défendre ses principes, puis elle l'a bien fait.
Il faut faire attention sur l'aspect. Il faut qu'on soit encore capable de jaser d'immigration.
Absolument.
Ça, c'est important.
Il ne faut pas être moralisateur.
Non. Il ne faut pas avoir peur d'aborder le dossier, mais c'est dans le comment on l'aborde.
Ouais.
Tout est dans la façon d'amener les arguments ou non. En terminant, peut-être, Luc, pourquoi il n'y a pas encore plus de femmes que ça en politique?
Bien, en même temps, c'est pas à cause que les partis ne font pas d'efforts. Mais il y a la conséquence d'être élu quand tu réalises que tu vas être loin de ta famille, loin de tes enfants, que c'est très prenant. Les femmes ont encore, en 2019, la charge, mm-hmm, mentale de la famille dans plusieurs cas.
Ben oui.
Et puis, il y a toute la question de l'ambiance. Hein? C'est encore très masculin, la confrontation, les odeurs de corruption des fois. Donc ça, c'est un petit peu répugnant pour les femmes. Alors, lorsqu'on modifiera les institutions, ça incitera les femmes à s'impliquer davantage. Ça sera une bonne chose pour le Québec.
Luc Fortin, merci beaucoup.
Merci à toi.
À la semaine prochaine.